Il paya les traites et billets qui engageaient sa signature, écrivit avant de quitter Bruxelles une lettre affectueuse à Angèle et partit sans revoir son fils, le laissant aux prises avec ses créanciers. Vint la saisie lamentable, aux heures éclaboussées de mépris. Le mobilier, acheté au nom d'Angèle, fut conservé. Le reliquat de la vente et le prix des meubles inutiles, du piano, firent une somme de 4 000 francs. Les jeunes gens louèrent un appartement de 2 pièces rue du Marché aux Herbes. « J'ai l'intention, dit Gaston, d'ouvrir un cabinet d'affaires. Contentieux, prêt, recouvrement. Comme l'argent me manque, je vais en prêter, il y a gros à gagner, je m'étonne de n'avoir pas eu cette idée plus tôt. » Angèle prit une grande résolution. Elle allait le quitter. Elle songeait à une rupture avant la faillite, mais elle ne pouvait le laisser seul pendant les mauvais jours. Elle se serait fait un scrupule de l'abandonner s'il eût été dans la misère. Mais avec son petit capital, il se tirerait d'affaire. Depuis 3 ans qu'elle vivait avec lui, jamais une heure de joie confiante, jamais de bonheur stable. Elle prévoyait que de plus en plus, leur vie se traînerait, misérable, car elle se défiait des opérations de comptabilité que son amant se proposait d'entreprendre. Elle en avait assez. Jamais il n'aurait le courage de travailler. Jamais un germe de vaillance ne lèverait dans cette âme veule. La fainéantise et le besoin de s'amuser étaient chez lui invincibles. Jamais une décision nette, une action franche. Il prenait des demi-résolutions, prêt à obéir à qui le menaçait de le laisser sans argent. Il l'avait enlevé, mais 3 jours après, il la quittait sous la menace de son oncle. Il aurait suivi les conseils de l'hôtelier de Tournai. Il promettait à son père de retourner au régiment. En face d'elle, il se reprenait, piteux, fuyant, déchu. Dans la journée et le soir, il paraissait l'aimer, parce qu'elle était jolie et voluptueuse. Mais presque tous les matins, il se levait de mauvaise humeur. Elle se sentait l'âme fripée, le cœur diminué. Dans leur nouveau logement, ils se parlaient peu, ne songeant pas à chasser par une étreinte ou un baiser l'hostilité qui rôde dans les chambres anonymes. À quoi bon ? Non, elle ne serait pas le décor d'une vie encore amoindrie, de scènes de violence, de larmes et de noces. Elle partirait. L'idée de la séparation ne la quittait pas, mais elle n'osait parler, voyant son amant soucieux. Peut-être avait-il la même pensée et la même hésitation. Il valait mieux que l'explication fût provoquée par lui. Plusieurs jours de suite, il sortit après le déjeuner et ne rentra que le soir. Une après-midi, elle l'aperçut sur la place de Brouckère, qui causait avec... Mais oui, elle ne se trompait pas, avec l'oncle Jean. Que se passait-il? Pourquoi l'oncle revenait-il à Bruxelles? Pourquoi ne voulait-il pas la voir? C'était assez de vie dissimulée. Elle brusqua les choses le soir même. « Pourquoi te caches-tu de moi? Je sais ce que tu faisais cet après-midi sur la place de Brouckère. » Il pâlit. Elle le revit avec son visage lâche des jours mauvais. « Alors tu m'espionnes? Pas de mots, pas de scène, j'en suis lasse. Que veux-tu faire? Il n'y a rien de défini. Écoute-moi bien. Ne reviens pas sur les promesses que tu as faites à ton oncle. C'est inutile de lui manquer de parole une fois de plus. Parle franchement. » Je suis mieux renseignée que tu ne le supposes. Je n'ai rien promis, c'est lui qui m'ennuie avec ce mariage. » À son tour, elle devint blême. « Quel mariage ?» Il ne voulait plus rien dire, comprenant que sa maîtresse ne savait rien. Mais elle exigea une explication, et tout de suite. « Quittons-nous sans querelle, en amis. Nous ne pouvons nous supporter plus longtemps. Mais je te préviens que si tu ne parles pas loyalement, je ne reste pas une minute ici, et tu auras de mes nouvelles. » Il se lamenta. Son père n'avait pas de cœur, il ne songeait qu'à ses enfants du second lit. Il n'aurait pas dû le laisser couler. « Oui ou non, veux-tu t'expliquer ?» Son oncle ne comprenait rien à la vie. Il voulait le marier, croyant que le mariage le rendrait sérieux. C'est là un raisonnement idiot, il abuse de la situation. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a le droit de forcer les gens à se marier malgré eux. « Il t'a dit que j'étais une femme de rien, qui t'avait ruinée. » Tu exagères. « Si, et pis encore. Et tu n'as pas protesté ?» Je lui ai assuré, ça suffit, cela n'a plus d'importance. Et tu te maries avec? Je te répète que c'est l'oncle Jean qui... Avec? Il parlait d'une demoiselle de magasin employée dans une librairie papeterie de la place de Brouckère. Tu mens. Ton oncle ne connaît personne à Bruxelles. Il rusait si misérablement qu'elle éprouvait pour lui plus de pitié que de dégoût. Comment l'as-tu connu? C'était pendant les jours d'inventaire. Il n'osait rentrer à la maison, craignant de rencontrer son père ou ses créanciers, et de se trouver face à face avec sa ruine. Oui, il la connaissait un peu de vue auparavant. Son patron passait quelques commandes à l'atelier. C'est chez ce libraire qu'il prenait ses fournitures de bureau. Elle crut deviner. Elle a des économies ? Oh, pas grand-chose, 9 000 francs. C'est l'oncle Jean qui... Elle fut sur le point de lui cracher à la face son dégoût. Ainsi, pendant ses jours mauvais, alors qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps, il débauchait une demoiselle de magasin dont il guignait les économies. Puis elle songea qu'il valait mieux qu'il en fût ainsi. Il ne pouvait l'accuser de le quitter parce qu'elle le savait ruiné. C'était la fin. Elle se sentit soulagée, comme si une corde qui lui serrait le corps se desserrait lentement. Avec douceur, elle lui dit « Je ne t'en veux pas. » Il prit un air navré, quoiqu'au fond il se réjouissait que la scène tournât ainsi. « Que feras-tu ? » ?»« Je travaillerai. » »« Toujours tes idées ? » ?»« Oui, je ne demande qu'à gagner mon pain. » »« Nous partagerons les 4 000 francs. » »« Non, » dit-elle sèchement, « je n'emporterai pas un centime. Cet argent est à toi. Tu me donneras de quoi vivre un mois, je n'accepterai rien d'autre. » Bon, assez de mots inutiles. Nous resterons ensemble. Ils m'ennuient, ces gens-là. » Elle se tut, mais le lendemain, elle alla retenir une chambre modeste, rue Grisard, dans le quartier maussade de la gare du Midi. 2 jours après, profitant d'une absence de son amant, elle fit sa valise, laissa sur la table un mot avec son adresse et, enfin délivrée, partit. Comme elle s'y attendait, le soir même, il arriva, pleura, la supplia de revenir à la maison. Mais dans cette chambre meublée, où ne flottait aucun lambeau d'autrefois, il lui apparaissait tout autre, presque étranger. Il lui semblait que le passé venait de tomber à ses pieds, comme une robe lourde, qu'elle se retrouvait elle-même, après avoir été une autre pendant 3 ans. Avait-elle vraiment vécu cette vie étrange de demi-prostituée ? C'était bien elle, la petite Angèle Renson de Ratantou, la femme du bourrelier, la cabaretière de Douai, la maîtresse de ce grand jeune homme qui allait se marier, qui pleurnichait et lui remettait 200 francs avant de sortir de sa chambre. « Pourquoi, en ouvrant la porte, disait-il rageusement. « Tu ne veux pas revenir ? Tu ne veux pas ? Eh bien, elle me le paiera, je en ferai voir. » Pourquoi se plaisait-il à tourmenter tous ceux qui l'approchaient ? Il venait chaque jour, disant qu'elle avait bien le temps de travailler. Elle le recevait presque gentiment, se promenait avec lui dans le quartier lépreux, où des filles, hideuses en plein jour, se pendaient aux bras des souteneurs, qui les mains dans les poches, traînait nonchalamment sur le pavé des espadrilles crasseuses, tachées de vin. Elle continuait à être sa maîtresse, sans joie, pour ne pas le chagriner en lui refusant son corps. La propriétaire, Madame Ruider, qui tenait au rez-de-chaussée une petite épicerie buvette, et chez qui la jeune femme prenait pension, se rengorgeait d'avoir une locataire aussi élégante. Angèle n'osait lui dire qu'elle cherchait du travail, et remettait de semaine en semaine les démarches qu'il lui faudrait entreprendre. Une après-midi, que Gaston était absent de Bruxelles, elle entra dans la librairie de la place de Brouckère, afin d'apercevoir la fiancée de son amant. Elle fut enchantée de se trouver en face d'une grande femme roussâtre d'une 30aine d'années. « Ah ah ! Le beau Gaston qui courait les filles ! Le voilà accoquiné avec une femme laide, fanée et maigre !» Pâle, la demoiselle de magasin s'avança vers elle. « Mademoiselle, dit-elle, je vous connais. Il m'a montré votre photographie. Vous ne devriez pas venir ici, après tout ce qu'il a fait pour vous et ce que vous lui avez promis. » Elle parlait d'une voix basse et poussait vers la porte celle qu'elle croyait sa rivale. D'abord interdite, Angèle se ressaisit et sur le trottoir lui lança rageusement. « Si vous l'avez, c'est parce que je ne veux plus de lui. Taisez-vous, malhonnête. Taisez-vous vous-même ou je le reprends ce soir. » La demoiselle de magasin se mit à pleurer. « Nous nous marions après-demain. » « Je le sais, ne craignez rien. Vous le garderez et je souhaite qu'il fasse pour vous tout ce qu'il a fait pour moi. Bien du plaisir !» Rentrée dans sa chambre, elle écrivit à Gaston une lettre méprisante où elle lui reprochait sa dernière lâcheté et lui interdisait de remettre les pieds chez elle. Le lendemain, la veille de son mariage, il lui fait porter par express une enveloppe contenant 2 billets de 100 francs et une lettre. Il viendrait la voir dans 15 jours, il y aurait du nouveau d'ici là. Il traitait, disait-il, une superbe affaire. S'il réussissait, il réservait à sa petite femme une surprise. 8 jours, 15 jours, 1 mois se passèrent. Pas de nouvelles de Gaston. Elle s'était bien promise de parler sec, de le mettre à la porte, de lui jeter ses 200 francs à la face. Au bout d'une semaine, elle le méprisa, croyant qu'il l'oubliait. Ne pensait-il donc à sa grande rousse ? Belle lune de miel ! Qu'elle niait ! Désœuvrée, elle faisait vers Saint-Gilles ou Kockelberg de longues promenades, et plusieurs fois accepta de prendre un café avec Madame Ruider et quelques jeunes femmes au parler gras, qu'elle trouvait amusantes. À la fin du mois, lorsqu'elle eut réglé sa chambre, sa pension, il ne lui restait que quelques pièces de 100 sous. Qu'allait-elle devenir ? Jusqu'alors, elle n'avait pas cherché un emploi, parce qu'elle ne manquait pas d'argent, et que malgré sa bonne volonté, elle appréhendait le moment où elle s'assujettirait au labeur quotidien. Avant de commencer une nouvelle vie, elle voulut connaître la cause du silence inexplicable de Gaston. Un matin, elle se rendit rue du Marché aux Herbes pour interroger les voisins, et passa devant la maison où, après la faillite, elle avait quitté son amant. Les persiennes étaient closes, le concierge sortait, il la reconnut. « Eh bien, vous avez du flair, vous. Vous êtes partie à temps. »« Quoi ? Où sont-ils ? » ?»« Comment, vous ne savez pas ? Ils font un joli voyage de noces. Ils sont en Angleterre, probablement à Londres. » La jeune femme devint si pâle que le concierge la fit entrer dans sa loge. Elle apprit que Gaston s'était imprudemment associé avec un individu louche, un receleur de bijoux volés. Puis, sa tête s'obscurcissant, elle entendit sans bien comprendre qu'on lui parlait d'une affaire de titre au porteur, que les deux compères voulaient négocier. Il y avait eu des plaintes. Une nuit, Gaston et sa femme s'étaient enfuis, une semaine après leur mariage. Des agents de la sûreté arrêtèrent l'associé le lendemain à Anvers, au moment où il prenait le bateau pour Londres. Peu à peu, Angèle se ressaisissait, et avant que le concierge n'eût fini ses racontars interminables, elle se leva, tremblant encore, comme si elle venait d'échapper à un danger. Elle ne plaignit ni Gaston, ni cette femme, qui avait déjà plus souffert en un mois qu'elle en 3 ans. Dire que cela aurait pu m'arriver ! Elle respira. Le passé n'existait plus. Elle était libre. Puis elle songea à l'avenir et frissonna. Elle était seule.